Santé Beaujolais d'Ombes.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire pour le territoire Beaujolais d'Ombes. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais d'Ombes sur le site internet de Radio Calade, www.radiocalade.fr, ou sur la page Facebook de la radio, ou sur le site de la CPTS Beaujolais d'Ombes, cptsbeaujolaisdombes.fr. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté territoriale de santé Beaujolais d'Ombes et animée aujourd'hui par Alexandra. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Marie.
Bonjour Ludovic.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Aujourd'hui, nous allons parler SIDA, ou syndrome de l'immunodéficience acquise, qui a été identifié pour la première fois en 1981. À l'époque, des cas de maladies pulmonaires rares et des sarcomes de Kaposi ont été signalés chez des hommes homosexuels aux États-Unis. En 1983, le virus responsable du SIDA, le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine, a été découvert par des chercheurs français et américains. Cette découverte a permis de mieux comprendre la transmission du virus et d'élaborer des tests de dépistage. Au cours des années suivantes, la pandémie du SIDA s'est rapidement propagée dans le monde entier, touchant des millions de personnes. Les premiers traitements antiviraux ont été introduits dans les années 90, ce qui a permis de prolonger la vie des personnes vivant avec le VIH. Depuis lors, des progrès considérables ont été réalisés dans la prévention et dans le traitement du SIDA. Les campagnes de sensibilisation ont contribué à réduire la stigmatisation associée à la maladie et les nouvelles thérapies antirétrovirales ont permis de contrôler efficacement le virus et de prévenir la transmission du VIH. Hommes ou femmes, tous nous pouvons être touchés. Ce qui est une maladie fatale est devenu une maladie chronique que l'on ne guérit pas, mais que l'on met en sommeil avec brio, car les patients sont capables d'avoir une vie quotidienne normale. Ces propos sont tellement criants de vérité que les jeunes de notre société ne connaissent plus la gravité de la maladie. Elle est devenue une maladie banale, d'où la nécessité de faire des ateliers de prévention et de communiquer comme nous le faisons aujourd'hui dans notre émission. Deux temps, nous allons découvrir ce qu'est ce virus et ce syndrome, comment il se diagnostique, comment il se traite en 2024 avec des traitements très simplifiés dans les prises. Mais il existe également des traitements de pré-exposition, de post-exposition immédiate qui permettent d'éviter la propagation du virus sur les premières heures après l'exposition. Des nuances que nous devons connaître pour soi, mais également pour son entourage, car agir vite, c'est également agir bien. On parlera également prévention, comment se protéger avant et pendant le plaisir.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Pour en parler avec nous aujourd'hui, le docteur Caroline Pietropaoli.
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 Et c'est Carole en plus.
Et c'est Carole.
On va y arriver.
Généralement, je fais une boulette dans l'émission et je l'ai faite. Donc, normalement, après, on est OK. Donc, vous êtes médecin hospitalier à l'hôpital Nord-Est.
Tout à fait. Infectiologue.
Et infectiologue.
Bonjour, merci de m'accueillir pour parler du VIH.
Et donc, on va commencer effectivement cette première chronique. Alors, quand on parle VIH, on parle de quoi finalement?
Eh bien, donc, on parle d'un virus qui se transmet par le sang, par les voies sexuelles, mais aussi par une transmission qu'on dit materno-fœtale, donc pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. On parle aussi de 40 millions de personnes atteintes dans le monde, donc 25 millions en Afrique. Et c'est environ 200 000 personnes en France, avec ce qu'on appelle une épidémie cachée de 30 000 personnes. Donc 30 000 personnes qui ne sont pas au courant d'être atteintes par le VIH. Donc ce virus atteint en fait nos globules blancs. Des globules blancs qui s'appellent les lymphocytes T4. Et ces lymphocytes, ils nous protègent en fait contre les virus et puis contre les parasites et les champignons. Et donc, atteint par le virus, petit à petit, ces lymphocytes vont disparaître et on va développer des maladies graves et généralisées par ces virus, ces champignons, ces parasites.
On n'a plus de défense immunitaire, en fait.
On n'a plus de défense immunitaire, exactement.
D'accord. Donc, si on traduit, on ne meurt pas du VIH, on meurt finalement des maladies qui sont
On va mourir des complications, voilà, du fait de la disparition de ces lymphocytes, exactement.
C'est ce qu'on appelle un syndrome.
Et c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le sida, effectivement, le syndrome d'immunodéficience acquise.
Donc le VIH, c'est quand on a le virus, mais qu'il est pas, qu'il s'est pas développé, en fait.
Le VIH, c'est juste le nom du virus.
D'accord.
Voilà. Et donc, on parle d'infection à VIH. Et on traite les patients voilà, pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils aillent bien et pour éviter justement que ces lymphocytes soient atteints et puissent continuer à nous protéger. On parle donc d'une maladie chronique qui ne se guérit pas, on n'a toujours pas de vaccin. Il faut que les gens prennent un traitement tous les jours. On parle aussi d'une maladie qui a toujours effectivement une forte discrimination et une forte stigmatisation malgré toutes les campagnes qu'on peut entendre depuis des années. Ça, c'est important de le rappeler parce que les patients peuvent théoriquement avoir une vie normale, mais la stigmatisation autour fait que quand même l'accès au travail, à une sexualité épanouie, à plein de choses est quand même plus difficile.
Excusez-moi, vous parliez de donc le stade où il y a la contamination avec le VIH, et puis après c'est le sida. Est-ce qu'il y a plusieurs stades différents ou c'est le stade de...
Il y a plusieurs stades différents, effectivement, en fonction de la profondeur de l'atteinte de ces lymphocytes et du coup des pathologies qui vont s'exprimer liées à ça. Et donc pour ça, ça va se passer en fait en plusieurs mois ou années. Donc, au début, il y a la primo-infection à VIH, où là, il y a souvent de la fièvre, des ganglions, il peut y avoir des diarrhées, des douleurs abdominales, une angine. Ça peut, voilà, des éléments qui sont très banals, en fait. Et puis, finalement, au fil des mois, va s'installer une fatigue et puis certaines pathologies infectieuses, notamment.
Ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années après ?
Oui, tout à fait. Donc pendant 2, 3, 4 ans et parfois 10 ans même chez certains patients.
D'accord, donc pendant plusieurs années, quasiment aucun symptôme, mais ça veut dire qu'on est quand même potentiellement contaminant alors ?
Plus que potentiellement même. Effectivement, tant qu'on n'a pas de traitement, on peut contaminer.
Et si on est au stade où on contamine, est-ce qu'on peut revenir en arrière et ne plus l'être avec les traitements ? Ce sera possible, ça ?
Oui, tout à fait. Si on arrive à avoir un traitement efficace avec une charge virale qu'on dit indétectable, c'est-à-dire lors des prises de sang, on détecte plus de virus dans le sang, à ce moment-là, on ne transmet plus le virus.
Et au stade du sida aussi, on peut revenir en arrière ?
Tout à fait.
D'accord.
On y arrive. C'est plus compliqué, plus long, mais on y arrive.
Alors, on va peut-être y revenir oui. dans la suite de l'émission. Sur les modes de transmission, quels sont-ils ?
Eh bien, donc, par le sang. Voilà, donc là, il faut qu'une personne contaminée ait une plaie et soit en contact avec une muqueuse ou une plaie chez une personne non contaminée. Également par les relations sexuelles, voilà, parce que le contact entre les muqueuses va pouvoir, avec du coup des fluides sexuels qui sont eux-mêmes, qui contiennent du virus, la contamination va pouvoir se faire. Et puis également lors d'une transmission materno-fœtale. Donc là, c'est la maman qui va transmettre au bébé, soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement aussi, ce qui est le moment le plus à risque, en fait. Et puis, également pendant l'allaitement, c'est possible.
On va enlever aussi les idées reçues. La salive ?
On ne transmet pas par la salive. On ne transmet pas en s'asseyant sur des toilettes.
voilà. Les mains non plus.
Une poignée de main non plus, on peut faire la bise, on peut embrasser, voilà. Par contre, on transmet également avec le partage de seringues usagées et potentiellement contaminées, ou aussi avec des pailles pour le sniff, l'usage de drogue par le sniff en nasal.
D'accord.
Donc le dépistage est forcément la première chose à faire alors.
Tout à fait, quand on a des... quand on prend des risques sexuels notamment ou sur la consommation de drogue, c'est important de se dépister régulièrement.
Et avoir le VIH, du coup, permet tout de même d'avoir des grossesses. Vous disiez que c'était possible d'avoir des transmissions, justement, materno-fétales. Effectivement, oui. C'est le cas.
Voilà, on traite les mamans. Et le fait de traiter les mamans permet de ne pas contaminer les enfants. Donc c'est pour ça maintenant, sur tout début de grossesse, ça fait partie du bilan, de faire une sérologie VIH. Voilà. Parfois, il faut penser à en refaire tout au long de la grossesse, voire même au moment de l'accouchement, chez des femmes qui peuvent avoir des risques de transmission pendant la grossesse.
Certaines femmes découvrent qu'elles sont positives au moment du diagnostic de leur grossesse.
Tout à fait. Voilà, c'est des moments qui sont toujours effectivement très particuliers. des découvertes qui sont en général voilà, difficiles. Mais la présence du bébé fait que voilà, les mamans, la plupart du temps, arrivent à prendre le traitement, à accepter, à prendre le traitement pour éviter de contaminer leur bébé.
Finalement, si on résume un peu, si on a une relation sexuelle et qu'on est exposé, il faut faire un dépistage le plus vite possible.
Oui et non. donc les tests de dépistage permettent de détecter des anticorps contre le virus au bout seulement de 4 à 6 semaines, même 6 semaines pour être sûr à 100%. Il y a un autre test qui s'appelle les tests de diagnostic rapide où là on prend une petite goutte de sang au bout du doigt et là c'est même au bout de 3 mois. Donc concrètement, quand on a eu une exposition à risque, là ce qu'il faut faire c'est plutôt aller aux urgences pour avoir le fameux traitement post-exposition dont on reparlera peut-être plus tard. Et puis si on n'a pas eu accès à ce traitement, à ce moment-là, on peut faire une sérologie dans un premier temps pour savoir quel est notre statut et puis refaire une sérologie 6 semaines plus tard ou ce petit test au bout du doigt 3 mois plus tard.
Et dans un laboratoire, le dépistage est gratuit.
Oui.
Et pas besoin d'ordonnance, pas besoin de...
Exactement, pas besoin d'ordonnance. Voilà, on peut se présenter au laboratoire et demander une sérologie VIH.
Même si les droits de sécurité sociale sont fermés ou pas, c'est peut-être...
Exactement.
Ok.
Ouais, oui. Moi, je voulais juste revenir sur une petite chose qui me semble importante, c'est que ça touche vraiment tout le monde. Les hommes, les femmes, des enfants, toute tranche d'âge, voilà, que tout le monde peut être à risque. Et donc, c'est important que tout le monde se dépiste, tout le monde ait au moins un dépistage dans sa vie.
Oui, le poids des années ne fait pas qu'on n'est plus contaminé. Ou c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on ne peut pas attraper le VIH, quoi.
Exactement. À l'heure actuelle, 30% des contaminations sont chez des patients de plus de 50 ans. Voilà, 30% des découvertes sont également à des stades très tardifs. Voilà, donc les gens ne se dépistent pas assez. Concrètement, pour des gens qui ont, par exemple, des partenaires multiples et variés et nombreux, on conseille tous les 3 mois. Voilà, et sinon, on conseille à chaque changement de partenaire de faire une sérologie VIH.
We'll be right back.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais d'Ombes.
Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Shining Happy People de REM.
Nous venons de comprendre ce qu'est le VIH, ses modes de transmission. Parlons traitement. Les progrès des 30 dernières années ont permis d'améliorer notablement la qualité de vie des patients. Nous allons partager cette chronique avec les traitements de la maladie déclarée, donc du sida, mais également avec les traitements préventifs qui existent et qui sont largement démocratisés. Pouvez-vous nous dire, docteur, ce qui a changé dans les traitements qui ont permis d'améliorer l'espérance de vie ?
Ben déjà, on a des traitements efficaces. Donc, on donne maintenant des trithérapies depuis la fin des années 90, permettant aux patients que le virus ne soit plus du tout détectable dans le sang et du coup, il n'attaque plus ces fameux lymphocytes T4 dont on parlait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une trithérapie ?
Eh bien, c'est des traitements antirétroviraux. Il y a plusieurs classes différentes et on essaye de donner donc trois molécules, dont au moins deux classes différentes pour atteindre le virus sur deux sites différents pour bien le bloquer. Parce que si on donne qu'une seule classe de médicaments, eh ben, le virus va avoir des résistances, va créer des résistances et du coup, le traitement ne sera plus efficace. Voilà, donc là, il y a de nouvelles classes de traitements qui sont sorties ces dernières années, depuis les années 2000, nous permettant de traiter efficacement de nombreux patients, même des patients avec justement des résistances au premier traitement apparu dans les années 90.
Est-ce que chaque patient, du coup, a le même traitement ?
Non, chaque patient n'a pas le même traitement. Ça va dépendre des résistances du virus. Ça va dépendre aussi de sa fonction rénale, de son origine. Ça dépend de plein de choses. Et puis, pour éviter les effets secondaires également.
Il y a une vingtaine d'années, on voyait des images de patients qui prenaient 15, 20 médicaments, enfin peut-être moins, mais vraiment beaucoup, beaucoup de médicaments de comprimés dans la journée. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Non, ça a été vraiment, je pense, une grande avancée pour les patients avec des trithérapies en un seul comprimé et en une fois par jour. Alors, ce n'est pas pour tous les patients, mais pour une majorité maintenant. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour eux parce qu'effectivement, ça change leur vie quotidienne. Et puis, ça change quand même l'adhésion au traitement. C'est-à-dire que le patient est plus observant en prenant qu'un seul comprimé qu'en en prenant 15.
C'est vraiment contraignant, oui.
Voilà, oui, tout à fait. Voilà, donc ce qui, dans les nouveautés aussi, c'est que ces traitements ont permis d'accéder à une forme de prévention. Donc soit avec le traitement post-exposition, ce dont on parlait, c'est-à-dire si on a eu un contact sanguin à risque, par exemple, ça peut être pour une infirmière qui s'est piquée avec une aiguille d'un patient contaminé ou lors d'une relation sexuelle à risque. Eh ben, on peut proposer dans les 48 heures un traitement qu'on dit post-exposition, qui est une trithérapie que l'on propose pendant un mois pour éviter toute contamination.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce traitement post-exposition ?
Concrètement, il faut aller aux urgences le plus vite possible après le contact. Du coup, là, aux urgences, on vous donnera un kit de 3 jours de traitement qu'il faut débuter de suite. Et puis après, vous êtes vu par un infectiologue. Donc, il faut appeler à l'hôpital Nord-Ouest ou ailleurs, ou à Lyon, en fonction de là où on habite, pour avoir le reste du traitement.
Donc, ça veut dire 48 heures, c'est le maximum après l'exposition. Il faut vraiment se tenir à ces 48 heures-là, venir le plus vite possible, quoi.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'il est important aussi de dire qu'il faut se présenter aux urgences, parce que vu parfois les temps d'attente qu'il peut y avoir.
Exactement, c'est une urgence et puis finalement la prise en charge peut être assez rapide. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à dire à l'infirmière d'accueil aux urgences ce pourquoi on vient, pour être pris en charge rapidement.
Ok, et la prise du traitement, donc j'imagine, se fait depuis les urgences ?
Oui, on peut commencer le traitement tout de suite.
Tout de suite, ok. Et est-ce que le patient va repartir avec un kit de traitement ou est-ce qu'il va falloir qu'il aille à la pharmacie? Comment ça se passe après?
Alors, il va repartir avec donc, ces trois comprimés. Et après, quand il verra un infectiologue qui validera la poursuite du traitement pour les 28 jours au total, on lui fournira effectivement une ordonnance où là, il pourra aller bah, soit à la pharmacie de l'hôpital, soit dans n'importe quelle pharmacie de ville.
C'est possible que ça se fasse à l'hôpital, donc?
Tout à fait. Pour toute confidentialité, voilà, si le patient le souhaite.
J'imagine que c'est pas très. Ça doit être difficile pour un patient d'aller en officine pour demander un traitement avec encore cette stigmatisation, comme on parlait tout à l'heure, qui est même que. Enfin voilà, ça peut être senti comme un échec pour le.
Exactement. On reçoit les patients au sein du CEGID, qui est le centre de dépistage anonyme et gratuit, qui est au sein de l'hôpital Nord-Ouest. Et là, au sein du CEGID, on peut donner gratuitement ce traitement de 28 jours. Et anonymement aussi.
Vous parliez de comprimés. Donc là, on est dans le traitement de post-exposition.
Oui.
Il existe d'autres traitements?
Donc c'est toujours des antirétroviraux qu'on utilise habituellement aussi pour des trithérapies, mais là qu'on utilise en ce qu'on appelle la PrEP. Les premières études datent de 2015 et depuis 2017, on l'a prescrit aux personnes qui prennent des risques sexuellement voilà, régulièrement. Et pour éviter donc quand ils s'exposent au VIH, ils peuvent prendre des comprimés. Donc soit tous les jours, soit dans les jours avant et après le rapport sexuel, pour éviter toute contamination par le VIH.
Et comment les patients peuvent avoir ce traitement pré-exposition?
Il faut qu'ils en parlent soit à leur médecin traitant, soit qu'ils viennent consulter sur le CEGID ou des infectiologues. Voilà, tous les CEGID de France prescrivent ce genre de traitement. Certains médecins aussi en CPEF, donc en planning familial, délivrent ce traitement.
Voilà. Les médecins traitants peuvent le prescrire aussi?
Les médecins traitants peuvent le prescrire.
Mais il faut forcément voir un médecin. On ne peut pas aller juste à la pharmacie comme on pourrait prendre la pilule du lendemain, par exemple.
Eh bien non. Voilà, c'est quand même un traitement antirétroviral. Il faut vérifier l'absence de contre-indication, la bonne indication. Vérifier aussi que le patient sera observant pour pas qu'il acquiert de résistance, qu'il acquiert le VIH sous un traitement mal pris et qu'il acquiert de résistance au virus par la suite. Voilà. Et après, ce sont des patients qu'on suit régulièrement tous les 3 mois et à qui on propose de faire des dépistages tous les 3 mois.
Et ces traitements, du coup, de pré-exposition et de post-exposition, ils sont fiables à 100%? Vous avez un retour vis-à-vis de cela ou pas du tout?
Oui. Alors, globalement, s'ils sont bien pris, oui, ils sont fiables. Il y a une bonne efficacité.
Cette trithérapie, ce ne sont que des médicaments. Il n'y a pas de forme injectable.
Alors, il existe maintenant effectivement des formes injectables de longue durée. Actuellement, on peut proposer à certains patients, en fonction du type de virus, de la vie du patient, du poids du patient, de plein de détails, des injections tous les 2 mois.
D'accord. Donc voilà. Là, on n'est pas dans la post-exposition, on est bien d'accord.
On est vraiment dans le traitement du VIH. Voilà, ce sont des patients qui sont atteints par le VIH et à qui on peut proposer donc c'est une injection intramusculaire dans chaque fesse toutes les 8 semaines.
Donc c'est par un cabinet infirmier, bien
oui,
sûr.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas de sous-cutané?
Non, pas encore de sous-cutané.
Et donc ces traitements vont permettre de diminuer la charge virale?
L'objectif est même de négativer la charge virale. Ce qui permet après aux patients de ne plus transmettre.
Ça veut dire que le virus est indétectable?
Exactement.
Et là, à ce moment-là, le patient n'est plus du tout contaminant alors?
Voilà. Il n'est plus contaminant, il peut avoir des rapports sexuels sans protection, il peut avoir des enfants. Voilà, ça c'est un élément qui est très important puisque les patients sont souvent très culpabilisés et ont peur aussi de transmettre la maladie. Et ça permet de réduire leur propre stigmatisation envers eux-mêmes, de ne plus être contaminants.
Et je pense que ce n'est pas en plus très connu au niveau de la population générale qu'on peut être porteur du VIH, mais du coup ne plus être contaminant parce que le seuil de le virus est un seuil vraiment très bas. Ce n'est pas très répandu comme, comme connaissance, en fait.
Ouais, et pourtant, c'est vraiment une information essentielle. C'est une information qui fait partie de la lutte contre le VIH. Voilà, parce que si toute personne est dépistée et toute personne est traitée, ben, à ce moment-là, il n'y aura plus de transmission.
Et du coup, l'espérance de vie est de nouveau est comme si le patient n'était pas contaminé. Est-ce qu'il y a quand même on a peut-être un peu de recul maintenant sur la trithérapie et sur...
L'espérance de vie des patients atteints par le VIH est quasiment identique aux patients non atteints par le VIH s'ils sont traités, effectivement. Voilà, donc c'est... Voilà, quand on les voit en consultation, on essaye de les rassurer. Voilà, après, on leur dit qu'effectivement, ils auront un traitement à vie. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de perspective de traitement curatif définitif. Mais on leur dit qu'ils vont pouvoir vivre, certes en prenant des comprimés, mais vivre, travailler, etc.
Et pour les enfants, on n'en a pas parlé, mais il existe aussi une trithérapie, j'imagine. Est-ce que c'est des comprimés aussi ? Comment ça existe ? Parce que c'est compliqué avec les enfants.
Oui, alors pour les enfants, il y a des sirops. Voilà, essentiellement pour les premières années de vie. Et après, il y a des comprimés aussi qui existent. Voilà, des comprimés dispersibles, ou des comprimés standards.
Merci. Santé Beaujolais d'Ombes. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Heroes de David Bowie.
Nous abordons la partie prévention. Est-ce que l'utilisation du préservatif reste le seul moyen pour se protéger efficacement ?
Eh bien non, on en a déjà parlé un petit peu, ouais. Mais effectivement, la prévention du VIH passe par plusieurs axes. Alors, il y a se protéger au moment du rapport sexuel, et donc là, il y a le préservatif, également la PrEP, dont on a parlé juste avant. Et puis, il y a le fait d'éviter les contaminations materno-fœtales et donc d'éviter des nouveaux patients contaminés. C'est un axe de la prévention. Le fait de traiter les patients qui ont le VIH, ça c'est aussi un axe de prévention. Comme on l'a dit, s'ils sont indétectables, à ce moment-là, ils ne transmettront pas le virus. Il y a également le traitement post-exposition. Donc c'est le traitement qu'il faut prendre dans les 48 heures après une exposition. Et puis, se faire dépister est un des éléments les plus importants. Voilà, ne pas faire l'autruche après un rapport sexuel non protégé, c'est très important. Il y a plusieurs moyens d'aller se faire dépister. Donc, on l'a dit, aller en laboratoire avec une ordonnance ou sans ordonnance. On peut aller dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, les CEGID. Ça, il y en a vraiment partout en France. Vous pouvez trouver facilement l'information sur Internet. Et puis donc, à Villefranche, il se situe à l'hôpital. On va également sur Tarare.
C'est ouvert tous les jours, excusez-moi.
Non, c'est pas ouvert tous les jours. Lundi, mercredi et jeudi. Voilà, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler pour prendre rendez-vous.
Ok. Et sur les heures de journée ?
Et sur des heures de journée, mais on essaye d'être ouvert le soir. Donc on est ouvert le lundi soir, le jeudi soir, et puis le mercredi matin, et entre midi et deux également, donc jusqu'à 14h le mercredi.
D'accord, ok.
La bonne conduite à tenir quand on commence sa vie sexuelle ou pas, ce serait du coup de faire quoi ? Alors d'utiliser des préservatifs, de faire un dépistage au bout de combien de temps ? Si on veut arrêter le préservatif, au bout de combien de temps ?
Ouais.
Qu'est-ce qui serait bien de faire ?
C'est une très bonne question. Et ce qu'on conseille, c'est effectivement de toujours porter un préservatif parce que il protège du VIH, mais pas que. Il protège de l'hépatite B, de l'hépatite C, de la syphilis. Enfin, je peux vous en citer plein. Je voudrais pas vous faire peur à tout le monde. Il y a aussi donc chlamydia, gonocoque, le papillomavirus. Donc le préservatif va permettre de protéger contre tout ça. Et puis, ce qu'on dit, c'est que en gros, au bout de 6 semaines, ce qui est le temps de détection des anticorps, on peut proposer, s'il y a confiance entre les deux partenaires, de venir que les deux partenaires fassent un test. Et s'il est négatif, à ce moment-là, ils pourront enlever le préservatif. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des vaccinations pour se protéger contre l'hépatite B. Il y a la vaccination pour se protéger contre le papillomavirus. Voilà, où là, on essaye de... Il est indiqué de vacciner tous les jeunes, femmes et hommes, jusqu'à l'âge de 19 ans. Les autres maladies sexuellement transmissibles, on les dépiste.
C'est un peu trop tard pour moi, mais pas si tard que ça.
Oh, pas tant.
Juste aussi pour se dépister, on peut aussi aller chez son médecin traitant. Il faut oser en parler, mais je pense que... le médecin traitant est là pour proposer ce genre de prévention.
Le médecin traitant fait quoi ? Un dépistage rapide, c'est ça ?
Alors, en général, ils ne sont pas équipés pour le dépistage rapide. Par contre, il va pouvoir vous donner une ordonnance, vous expliquer. Et à ce moment-là, derrière, vous pouvez aller au laboratoire. Voilà, le test rapide, ça, en général, c'est soit les associations, soit les CEGID qui en sont équipés. Il existe aussi des tests rapides qu'on appelle des autotests qu'on peut acheter en pharmacie. Ça coûte une quinzaine d'euros en général. Et donc, on peut faire soi-même son test à la maison.
Il existe sur Villefranche des associations qui proposent un test rapide ou pas ?
Oui, ça va être le XAPA, mais aussi au CPEF. Il y a plusieurs.
Il n'y a pas encore de politique ou d'axe où on se dirait on se dépiste régulièrement tous les temps. C'est envisagé pendant les grossesses, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on pourrait se dire ça pourrait faire partie d'un bilan un peu plus complet ?
Oui, en fait, c'est déjà une information qui est donnée. Ce qu'on dit, c'est que toute personne dans sa vie doit avoir eu au moins un dépistage pour le VIH et même pour les hépatites. Donc, il faut que les médecins traitants y pensent aussi quand ils font, je ne sais pas, un dépistage pour la prostate, pour le cholestérol. Voilà, et ben peut-être y penser à ce moment-là si c'est des patients qui n'en ont jamais eu.
Si le médecin a oublié, le patient du coup peut le demander au moment où il fait sa prise de sang, puisque de toute façon il n'a pas besoin d'ordonnance, donc
tout à fait.
C'est le moment de le faire.
Exactement.
Autant le piquer qu'une seule fois.
Exactement. Voilà, donc des politiques qui en existent. Après, c'est sûr que c'est l'information auprès des patients, auprès des médecins, auprès de tous les professionnels de santé. Et puis, essayer de limiter aussi la discrimination qui, je pense, fait peur aux gens et du coup, limite le dépistage.
Santé Beaujolais d'Ombes. Vous êtes toujours sur Radio Calade, toujours avec nous sur Santé Beaujolais d'Ombes, et vous venez d'écouter
Viva la Vida de Coldplay.
Si vous avez manqué le début de l'émission de ce jour, venez nous retrouver sur le site de Radio Calade en podcast, dans l'onglet, ou dans l'onglet, dans le podcast, je vais y arriver, et on clique sur l'onglet Santé Beaujolais.
Moi, je n'arrive pas à dire podcast, donc une fois sur deux, je bégaye.
Pourtant, là, tu es bien.
Eh bien oui, mais parce que ce n'est pas moi qui présente.
Ah oui, c'est ça.
Alors.
Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet de la CPTS Beaujolais. Donc là, c'est plus. Tu vois, ça coule. Donc après avoir parlé traitement, parce qu'on a quand même bien abordé le traitement, entre autres de la maladie déclarée, on va parler, je crois qu'il faut faire la distinction entre les 4 premières heures jusqu'aux 48 heures suivantes. C'est ça,
oui.
Docteur, aidez-moi.
Pour le traitement post-exposition.
Voilà, voilà. Il y en a une qui suit.
L'efficacité de ce traitement est liée effectivement à la rapidité avec laquelle on le prend dans les suites du risque. Voilà, donc on dit que l'idéal pour qu'il soit efficace à 100%, c'est de le prendre dans les 4 heures. Et puis après, jusqu'à 48 heures. Après 48 heures, on considère que la balance bénéfice-risque entre la prise du traitement et puis l'efficacité n'est pas forcément en faveur de prendre le traitement.
Et quels sont les risques finalement de prendre le traitement un peu après ?
Juste qu'il ne sera pas efficace en fait. Alors effectivement maintenant... le traitement post-exposition a également bien changé. Avant, c'était une trithérapie avec 3 gros comprimés. Maintenant, c'est toujours une trithérapie, mais avec un seul comprimé qui est globalement très bien toléré par l'ensemble des patients, avec peu d'effets secondaires, peu d'interactions avec les autres traitements. Donc, concrètement, peu de risques, mais c'est juste qu'il risque de ne pas être efficace. Mais s'il n'est pas efficace, dans tous les cas... il faudra traiter le patient par la suite.
Et donc cette trithérapie, elle peut ne pas être efficace après 48 heures.
Oui.
C'est pas la même trithérapie qu'un patient va prendre quand il a le VIH du coup ?
Si, potentiellement, effectivement, ça va être la même.
Comment ça se fait que ça ne... Alors donc ça veut dire que ça pourrait ne pas être efficace, c'est-à-dire ça n'empêcherait pas le virus de se développer, mais ce serait quand même efficace dans le sens où ça réduirait la charge virale.
Oui, tout à fait. Mais par contre, on n'empêchera pas le virus d'aller infecter les premières cellules et du coup après de se développer et donc d'être présent dans le corps du patient. Voilà, donc là, le patient, il est atteint, infecté, et il faudra qu'il ait un traitement à vie.
D'accord.
Donc finalement, plus on prend ce traitement tôt, mieux c'est.
Exactement.
D'où l'importance, quand on est aux urgences, de se présenter.
De se présenter, et puis d'où l'importance de relayer l'information. Encore beaucoup de gens ne connaissent pas l'existence de ce traitement post-exposition, que c'est possible. Et donc, on voit encore de nombreuses personnes venir au centre de dépistage après un rapport à risque, pour faire justement un dépistage, ce qui est déjà un très bon réflexe. Mais ils sont venus trop tard pour pouvoir avoir accès à ce traitement post-exposition.
Il ne faut pas culpabiliser d'aller aux urgences un dimanche soir et de ne pas attendre le lendemain pour voir son médecin traitant, par exemple.
Voilà, il faut aller aux urgences. Les urgences sont aussi là pour ça.
En fait, il ne faut même pas se poser la question. Il faut aller aux urgences. Quoi.
Enfin, exactement.
Je crois que oui.
Voilà. Après, on peut se présenter dans un Cégide sur des heures d'ouverture au Cégide. Là, effectivement, on vous recevra en général en urgence aussi. Mais pas toujours. Il faut trouver un Cégide autour de chez soi.
Qui soit ouvert,
etc. Et donc, les urgences, ça peut être plus simple.
Question subsidiaire, mais enfin, on peut retravailler le lendemain. Il n'y a pas d'arrêt de travail.
Il n'y a pas d'arrêt de travail. Le traitement est très bien toléré. C'est, comme je vous ai dit, c'est un comprimé qui avait à être pris une fois par jour. Donc... pas d'arrêt de travail, non. Mais, après, on peut venir... il faut venir au Cégide. En tout cas, il faudra venir voir un infectiologue pour avoir les 25 jours de traitement dont on a parlé déjà. Et donc, je rappelle, le Cégide à Villefranche, c'est le lundi soir de 16h30 à 19h, le mercredi de 9h à 14h et le jeudi de 16h30 à 19h30. Vous pouvez nous envoyer un mail pour prendre rendez-vous à cégide@hno.fr ou nous appeler au 04 74 09 28 27.
On répète.
04 74 09 28 27.
Comment vous écrivez Cégide ?
C-E-G-I-D-D.
Ah, c'est un G.
Ouais.
J'aurais mis un J.
Non, c'est pour le centre
La colle.
Bon, il y a déjà deux dés. Hein.
Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des maladies sexuellement transmissibles.
Merci.
Merci à vous.
J'imagine qu'on peut retrouver toutes ces informations sur le site de l'hôpital.
Sur le site de l'hôpital, sur Google. Ah oui, vous pouvez prendre également rendez-vous sur Doctolib.
Ah ouais, donc important, ouais.
Voilà, important. Sur Sida Info Service, sur plein de sites différents sur Google, vous allez retrouver notre Cégide, mais également les autres, si jamais vous êtes en vadrouille.
On le répète encore, je crois qu'on ne le répétera pas suffisamment, mais... Le Cégide, c'est un moyen, ce n'est pas le seul. Et que les urgences, c'est quand même 24 heures sur 24.
Exactement.
S'il y a un besoin de traitement.
Voilà, s'il y a un besoin de traitement, les urgences. Et puis surtout, je le répète, mais allez vous faire dépister.
Exactement. Santé Beaujolais d'Ombe. Notre émission touche à sa fin. Pour résumer, donc, le VIH ne s'élimine pas. Il se soigne efficacement avec des traitements toujours plus performants. Vous avez parlé des effets secondaires qui sont de moins en moins présents. On évite également la multiplication des prises quotidiennes. Si nous sommes bien dans une maladie chronique, on ne peut qu'inciter les plus jeunes à connaître les moyens pour éviter cette maladie en connaissant les modes de transmission de la maladie, la prévention qu'on peut faire et l'existence des traitements pré- et post-exposition qui existent. Le traitement actuellement, c'est toute la vie. Il doit être pris sérieusement, vous l'avez dit, car le virus est toujours en veille et c'est bien la prise médicamenteuse qui va éviter de rouvrir la porte des signes cliniques avec l'apparition des maladies qu'on peut appeler opportunistes.
Tout à fait.
Si vous avez manqué une partie de notre émission, encore une fois, ayez le réflexe podcast disponible sur le site de Radio Calade. Alexandra, c'est quoi? C'est en...
podcast.
Docteur, un grand merci pour votre participation.
Merci à vous.
Et à bientôt, nous l'espérons, dans une autre émission. Marie, Alexandra, rendez-vous, même heure, même endroit, le mois prochain, pour une nouvelle émission, donc, qui sera normalement dédiée à l'insuffisance...
gériatrie, Ludovic.
Ah, gériatrie, oui, l'insuffisance cardiaque, c'est pour après. Bon, alors, ça sera pour la gériatrie le mois prochain. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombe, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombe.
Calade.